J'aimerais qu'on prie juste avant de commencer. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses. Nous savons bien que nul être humain ne serait digne de parler de ta part. Aucune bouche ne serait assez habile pour décrire les choses que tu nous révèles en ta parole. Et je te demande, Seigneur, que seul ton esprit agisse, utilise l'efficacité de ta parole en elle-même. Et Seigneur, que tu donnes de la liberté, de la hardiesse pour partager un message qui peut libérer nos âmes de bien des asservissements. Seigneur, merci de cette liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Amen. Alors le thème de ce soir, de cet après-midi, c'est la croix, notre libération. Alors, on pouvait discuter justement si c'est notre liberté ou notre libération. On comprendra mieux tout à l'heure que c'est bien d'une libération dont il s'agit. J'aimerais, pour introduire, lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 67. Une prophétie que Zacharie. Donc, Luc, chapitre 1, verset 76, 67, pardon. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, je ne vous demanderai pas aujourd'hui d'essayer de suivre tous les versets. Je les ai écrits pour que ça aille un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de versets. Si vous êtes très rapide, allez-y. Sinon, écoutez, les versions que j'ai utilisées sont fiables, donc vous pourrez vérifier si vous le voulez. Donc cette prophétie de Zacharie. Eh bien, dans le cas, enfin, pour ce qui concerne le peuple juif, je pense que pour la majorité, ils n'avaient pas parfaitement compris ce que ça signifiait d'être délivré de ses ennemis. Beaucoup avaient plutôt l'impression qu'il s'agissait du joug romain dont ils devaient être affranchis. Et en l'occurrence, peut-être que même Zacharie, avec son intelligence, pensait un peu à ça, mais c'était une prophétie. Et Dieu, en inspirant ces paroles, avait une bien autre intention. Et comme autrefois certains s'étaient trompés sur ce que signifiait cette libération, il est possible, il est probable que beaucoup dans nos milieux même ne comprennent pas parfaitement ce que ça veut dire vous êtes réellement libre. N'ont pas bien compris, ont peut-être des illusions. Des aspirations qui ne sont pas précisément celles que le Seigneur avait prévues dans son plan. Si je vous demandais déjà tout simplement de définir le mot liberté. Alors liberté, ça évoque, et on voit un drapeau qu'un vent agite de côté et d'autre, voilà. La liberté, c'est quand l'air souffle et que rien ne l'entrave. Mais en fait, on serait bien ennuyé maintenant si on devait définir tel un dictionnaire ce que c'est que la liberté. Alors, je suis allé en chercher deux. Un, d'abord, vraiment le plus simple, un petit Robert pour les enfants, le Benjamin. C'est intéressant parce que là, c'est simplifié à l'extrême. Alors, vous allez voir la définition. La liberté, c'est le droit de faire, de penser et de dire ce que l'on veut. Alors, si c'est ça qu'on enseigne à nos enfants sur ce qui est de la liberté, ça nous promet quelque chose. Non, effectivement, c'est très simplifié et c'est subversif. Parce que faire ce que l'on veut, alors là, on part à la catastrophe. C'est malheureusement ce que beaucoup pensent être la liberté, et ils essaient de le vivre, et le résultat, c'est effectivement une catastrophe mondiale, en tout cas générale. Dans la Bible, en tout cas, l'idée de la liberté est toujours opposée à celle de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Ça implique nécessairement qu'il y ait eu servitude ou un emprisonnement antérieur. Et en réalité, je réfléchissais un peu à ça et je me disais finalement, la liberté, c'est un peu comme la santé. C'est quand elle est absente qu'on se rend compte qu'elle existe. Alors, je crois qu'il est bon aujourd'hui de définir un tout petit peu mieux de quoi nous avons été délivrés, puisqu'il était question d'ennemis dans cette libération. De quoi avons-nous été délivrés? La croix, on le verra, nous a délivrés de manière très générale du mal. On va détailler ça. Et une chose très importante, qui n'est pas une révélation, mais qu'on peut vraiment, on a besoin de réapprofondir et de comprendre fondamentalement, la croix nous a délivrés de la loi. Et puis on verra, parce que sinon on est complètement dans la théorie, on verra comment on peut vivre cette délivrance. Et ça, c'est peut-être le plus gros morceau, parce que c'est facile d'aligner une quantité de versets qui nous parlent de quoi le Seigneur nous a délivrés, mais quant à les vivre, c'est bien plus difficile. Et je ne peux pas m'empêcher de vous partager, hier dans le message que notre frère a prêché, j'étais frappé à un moment donné quand il a décrit, quand le Seigneur a porté nos péchés en son corps, sur le bois. C'était pas une vision, mais j'étais frappé de cette idée-là. Je me disais, mais regardons déjà cette salle. Le Seigneur, et d'un coup je voyais l'enveloppe physique d'un homme sur Terre, il y a un peu plus de 2000 ans, un homme qui avait un corps de 1 mètre entre 60 et 80, je ne sais pas, mais un corps qui aurait porté tous les péchés de tout ce que nous sommes ici. Et de tous les péchés de toute notre vie à chacun d'entre nous. Et tout ça rassemblé en un corps. Et puis après, je voyais derrière moi la surface de la Terre. Et je me disais, nous, qu'est-ce qu'on est là? On est là sur ce petit, tout petit pays-là. Et on n'est même pas ce petit pays-là, on est quelques-uns parsemés de ce petit pays-là. Et alors imaginons maintenant toute l'humanité aujourd'hui sur toute la surface de la Terre. Et toute l'humanité de toute la surface de la Terre, de tous les temps passés et à venir. Et un homme sur Terre, bien qu'il soit fils de Dieu, en tant qu'homme, il a porté tous nos péchés en nos corps, en son corps sur le bois. Et je me disais, mais là encore, c'est quelque chose d'incompréhensible, extraordinaire. On ne sait pas, est-ce que ça pèse quelque chose, le péché? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ait porté nos péchés? Mais il les a portés. Et on comprend qu'il y a eu des ténèbres pendant des heures quand le Seigneur portait nos péchés, le péché de toute l'humanité, de tous les temps, en son corps. Et une autre idée m'est venue à l'esprit. J'ai vu le film L'Exorciste quand j'étais non chrétien. Certains le connaissent, je ne vais pas vous raconter le film, mais en gros, dans ce film-là, il y a une jeune fille qui, à un moment donné, est possédée. Possédée par Satan, enfin. Et elle fait des choses terribles parce qu'elle est possédée. Et il y a un prêtre qui est censé venir l'exorciser, peu importe l'histoire. Mais il y a une fin à cette histoire que je trouve intéressante. À la fin de cette histoire, le prêtre demande à Satan de laisser cette proie pour venir en lui. Et là, le démon ou Satan accepte le marché et il vient en lui. Et à ce moment-là, le prêtre a un sursaut suffisant de volonté pour se précipiter par la fenêtre et mourir. Et il a vaincu comme ça, et il a délivré cette jeune fille comme ça, dans le film. On arrête là, on oublie le film, juste pour retenir cette idée que le Seigneur ait pu nous affranchir en portant en lui quelque chose d'aussi abominable que le péché de toutes nos vies et celle de toute l'humanité. Et c'est comme ça qu'il nous a affranchis. C'est comme ça qu'il nous a libérés. C'est comme ça que le marché a été conclu, comme notre frère l'a développé hier soir. Mais cette jeune fille, le film terminé, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle fait de cette nouvelle liberté, de cette libération? Et aujourd'hui, nous, nous sommes ici parce que nous avons été libérés de choses abominables, perverses, tordues, méchantes, orgueil, paresse. Vous pouvez faire une liste de toutes les abominations que nous avons vécues et tout ça rassemblé. Et nous avons été libérés, affranchis de ces choses. Et qu'avons-nous fait de cette libération? Qu'est-ce que cette liberté nous a permis de vivre? On l'a lu tout à l'heure, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, c'était pour le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Quel merveilleux projet! Et je crois que si le Seigneur a accompli cette première partie de nous délivrer de nos ennemis, dans son projet, dans son plan qu'il accomplit aussi fidèlement, aussi sûrement, il y a la suite. Il y a nous permettre de vivre librement et de le servir sans crainte. Sans crainte. Et de marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice. Alors quand on parle de liberté, on entend souvent démocratie aujourd'hui. Il y a des pays en démocratie qui se battent, qui sont en guerre, qui se battent à l'intérieur, parfois qui sont obligés de se battre à l'extérieur. Je ne dis pas que la démocratie, c'est la liberté. Mais toujours est-il que pour ceux qui n'ont pas cette démocratie-là, ils aimeraient bien l'avoir. Et pour cette liberté, nous avons des combats aussi à vivre pour la conserver, celle que le Seigneur nous a donnée et pour la vivre. Alors, on va développer un tout petit peu ça. La croix, d'abord, nous a délivrés du mal. Et là, je vais vous lire des versets. Délivrés du mal, d'abord, j'ai pris cette illustration, cette image-là du film, mais d'abord, le Seigneur nous a réellement libérés du monde spirituel mauvais. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan, l'ennemi de nos âmes, et la mort, son cerbère, son fidèle serviteur, ont été vaincus. Ensuite, Colossiens 2, 13 et 15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les puissances spirituelles, les anges déchus, les démons ont été vaincus. » Alors, avec de telles affirmations, je ne vais pas vous développer tout ça. Contentons-nous déjà d'entendre et de ne pas dire « Oui, bon, d'accord. » On ne peut pas nécessairement tout comprendre, mais le Seigneur l'a dit, c'est la vérité. Croyons-le. Ensuite, c'est là où ça devient pour nous un peu plus quotidien, le monde et le siècle présent. Galates chapitre 4, versets 3 à 5, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors, on entend aujourd'hui, « Ah oui, mais les temps sont difficiles, on vit dans une société post-chrétienne, et puis il y a une telle pression avec les médias, et puis le monde s'introduit, et puis c'est les derniers temps, et on entend, voilà notre siècle présent à nous. » Mais le Seigneur lui-même dit, « Je me suis donné pour vos péchés afin de vous arracher de ce siècle présent mauvais. » Donc, si le Seigneur s'est donné pour nos péchés, il doit aussi nous soustraire à cette attraction mauvaise. Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. » Alors là, je vais chercher à expliquer. Parce qu'autant les affirmations de tout à l'heure étaient claires, on comprend, autant là, le monde est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde. Quand je me suis converti, que j'ai quitté mon appartement pour me diriger vers l'église où j'allais ouvrir mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'était étonnant parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je ne savais pas du tout à quoi j'exposais ma vie. Mais en quittant chez moi dans le 3e arrondissement à l'époque à Paris, dans le Marais, je me dirigeais vers le métro et je passais à côté de boutiques. Et ces boutiques éclairées avec leurs vitrines, j'avais pas lu la Bible, mais mes regards s'arrêtaient dessus et pourtant je n'étais pas particulièrement intéressé par la mode. Mais c'était un peu comme si je sentais que je réalisais que là, en allant vers là où j'allais aller, tout ça allait terminer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé quand je me suis converti, effectivement, ces choses-là ont été crucifiées pour moi. Non pas que maintenant je ne m'habille pas, mais ces choses-là ont été. Le monde a été crucifié pour moi. L'apôtre Paul l'a dit dans d'autres termes. Il a dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Alors là, il parlait, c'est vrai, de sa lignée juive, ses avantages religieux, sa pratique de la loi, tout ce qui faisait ça, son orgueil, sa vie, l'orgueil de la vie. Eh bien, il a dit ces choses-là, je les ai regardées, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ces choses-là, est-ce qu'on les considère comme crucifiées? C'est-à-dire, ce matin, on a entendu que ça veut dire immobilisé. Immobilisé, rendu inopérante, sans attraction, sans la possibilité de venir me chercher, me guetter, m'attirer et m'amener à ces choses-là n'ont pas d'attrait. Ces choses-là, l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié à ces choses, j'ai été crucifié au monde, et ces choses-là existent, je peux en jouir comme n'en jouissant pas, je peux posséder comme ne possédant pas, mais elles n'ont pas d'emprise. J'ai été crucifié au monde. Et la deuxième partie qui dit, mais moi maintenant, je le suis pour le monde. Bien là, je me suis dit, ben, c'est que maintenant, je n'ai pour le monde, c'est un peu comme si, voilà, j'ai été cloué, je ne lui appartiens plus. C'est l'idée de l'opprobre. C'est moins clair. Mais en fait, quand on devient chrétien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être vos amis, votre entourage, des gens pour lesquels vous étiez quelqu'un d'agréable, de rigolo, avec lequel on fait la fête, avec lequel on s'amuse bien. Moi, j'avais une jeune fille avec laquelle je travaillais, j'étais à Paris, donc, et cette jeune fille. Bon, j'avais un peu l'humour à la Buster Keaton, je la faisais beaucoup rire. Alors elle rigolait à toutes mes plaisanteries, je faisais souvent, enfin, pas méchante, mais je. Et après ma conversion, j'étais joyeux, mais je faisais plus mes plaisanteries. Et alors je lui parlais du Seigneur très vite, et à un moment donné, elle me disait, mais arrête, je te préférais vraiment avant. Avant, tu me faisais rigoler. J'ai dit, mais oui, mais j'ai mieux maintenant que ça à te proposer. Et en fait, pour elle, à un moment donné, je suis devenu répulsif. Voilà, je n'avais plus d'intérêt pour elle. Elle avait senti que je lui avais échappé, et mon humour, ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais crucifié pour le monde, on ne devient plus intéressant. Si on vit comme des chrétiens, si le monde a été crucifié pour nous, alors, à notre tour, à cause de l'opprobre de Christ, à cause du fait qu'on ne s'amuse pas comme eux, à cause du fait qu'on n'est pas comme ça, ben, on devient crucifié pour le monde. Et vous savez que la crucifixion, c'est une malédiction, c'est dégoûtant, c'est repoussant. Voilà ce qu'on est, comme dit le Seigneur, une odeur de mort pour ceux qui sont morts. Alors on a vu qu'on a été délivré du monde spirituel mauvais, mais on a été délivré encore plus concrètement du péché, à la fois de ses conséquences éternelles, alléluia, mais aussi de son autorité. Apocalypse 1, 5, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Encore une affirmation tranchée, limpide. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous avez la liste que vous connaissez très bien de vos péchés, j'ai la mienne, mais c'est bien de nos péchés qu'il nous a délivrés. Et ensuite, Romains 6,14 dit, car le péché, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il y a un cantique qui dit « Nous ne sommes plus esclaves, gloire à l'agneau ». Vous connaissez ce cantique. Ce cri viril, on dirait presque du cœur de « Nous ne sommes plus esclaves, gloire à l'agneau ». Est-ce vrai? Amen. Alors il y a des choses qu'on ne comprend pas parfaitement là-dedans. Parce qu'il est dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi ». Mais sous la grâce. Et c'est là où il faudrait aller approfondir Romains 6 et 7 pour comprendre le lien qu'il y a entre le pouvoir du péché sur notre vie à cause de la loi. Et on ne va pas le développer maintenant, mais en revanche, après avoir vu qu'on est délivré du monde spirituel mauvais et de nos péchés, et là, on va encore plus précisément notre vieille nature. Ce que nous sommes finalement. Ce dont on dirait, ah ben ça c'est moi, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est 40 ans que je suis comme ça, le pli est pris, vous savez c'est dur hein, quand même, 40 ans d'habitude, si vous êtes converti à 40 ans, ou 50 ans à 50 ans, ou... ça ne se change pas comme ça quand même un pli. Franchement, si vous avez pris dès votre enfance l'habitude d'être paresseux, ou menteur, ou voleur, d'un coup, 40 ans plus tard, alors que vous avez toujours pratiqué ça, jour après jour, le mensonge, la paresse, l'orgueil, et d'un coup, du jour au lendemain, il faudrait que ça disparaisse. Mais non, non, il ne faut pas exagérer. Dieu m'a délivré de choses grossières, il m'a délivré de la perversion, ou je ne sais quoi. Enfin, mais quand même, toute une vie, ça fait partie de mes fibres, c'est génétique. C'est génétique, parce que c'est en moi, mais c'est aussi hérité de mes parents. Donc on n'arrive pas à briser une chaîne comme ça, non. Et pourtant là, le Seigneur ne nous laisse pas la moindre marge de négociation sur ce sujet. Galates 2:20, on l'a lu hier. J'ai été crucifié avec Christ, et maintenant ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour moi, afin de me racheter de tout ça, et de moi-même, entre autres, et de moi-même, entre autres. Vous pourriez faire encore une liste de tout ce qui ne va pas dans votre vie, que vous repreniez ça à l'enfance ou je ne sais quoi. Romains 6 dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » On parlait du péché, tout ce péché qui était en cette enveloppe, dans ce corps, à la croix. Mais en plus, il y avait nos vieux hommes, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais tout ce vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui, c'est ça qui est extraordinaire, celui qui est mort, est libre du péché. Et là, on est encore dans de la folie. De la folie furieuse. Imaginez maintenant, votre épouse est sensible à l'extrême au cornet au chocolat. Elle a une attraction, vous avez entre la salle à manger et le réfrigérateur, presque le sol est creusé à l'endroit pour rejoindre le congélateur. Imaginez, votre épouse, voilà, on est là. Et vous l'aimez, votre épouse. Elle est malheureuse parce que chaque fois qu'elle mange trois cornets au chocolat à la suite, d'abord, elle a mal au ventre, et puis elle se sent coupable après, et puis elle prend du poids, et puis tout le monde en est malheureux, et puis bon, ça ne vous fait pas plaisir. Enfin, tout ça, c'est un cercle vicieux. Bon. Et vous dites, comment je vais pouvoir l'aider? Et là, vous allez dans le placard, vous allez chercher un fusil, fermez la porte, et on ne peut pas l'empêcher d'avoir du chocolat. Il y aura toujours du chocolat, elle ira faire des courses pour nourrir la famille, il y aura toujours des cornets de chocolat. Je ne peux pas l'empêcher, il y aura toujours du chocolat autour d'elle, partout, il y aura toujours une copine qui va lui en offrir, et elle aura une moindre dépression, elle ira en acheter, même s'il n'y en a pas dans le frigo, elle se débrouillera d'avoir du chocolat. Le seul moyen, prenez votre fusil, poum, morte. Plus de problème, elle ne mangera plus de chocolat. Excusez-moi, ça semble être de l'humour. Mais comment Dieu a résolu le problème de notre attraction du péché? Le monde, on le dit, nous sommes dans le monde. Il y aura toujours dans le monde de quoi nous attirer. Autour de nous, à l'intérieur de nous, il y aura toujours des choses qui nous attirent, le péché. Alors, comment arriver avec efficacité à régler le problème? Le point faible, c'est nous. Poum! On est mort. Le problème est réglé. Ah oui, mais là, c'est pas bien. On est mort. C'est un peu bizarre comme manière d'agir. Et oui, imaginez qu'après, vous ayez le pouvoir de faire renaître la personne que vous avez tuée. Et la personne qui renaît, elle, n'est pas du tout attirée par le chocolat. C'est pas du tout un problème. Vous pouvez lui mettre des tapisseries tout entières avec des cornets. Ça lui fait strictement rien. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez abattu celle qui, de manière indéfectible, serait toujours attirée par le chocolat. Et vous mettez quelqu'un d'autre en elle, elle renaît. Et cette personne-là, elle n'est pas du tout esclave de ça. C'est merveilleux. C'est incroyable. C'est divin. Celui qui est mort est libre du péché. À l'église, on a refait l'électricité. Et heureusement, c'est l'électricien qui est venu s'occuper de ça. On avait une installation qui datait de 20, 30 ans, je ne sais pas. Et donc, elle était vraiment dangereuse, très dangereuse. Elle marchait, mais elle était très dangereuse. Mais depuis que l'installation a été refaite, un électricien est venu, nous a mis un compteur magnifique, il nous a mis les câbles exactement qu'il fallait, les interrupteurs où il fallait, les néons qui sont parfaits, tout est impeccable. Et il a posé sur le côté les vieux néons, le vieux matériel, les vieux fils, les vieux interrupteurs. Et imaginez qu'en arrivant le dimanche matin, le pasteur aille appuyer sur les interrupteurs, là, les anciens, qu'il espère que les vieux néons qui ont été enlevés éclairent la salle. En disant, mais ça a toujours été comme ça. Je me rappelle, ces interrupteurs, je les connais bien. J'ai toujours eu ces interrupteurs. À chaque fois que j'appuyais, ça marchait. Et ça serait ridicule. On lui dirait, mais écoutez, pasteur, on a changé l'électricité. Le système est nouveau, il est neuf, il est fiable, il est aux normes. Appuyez sur cet interrupteur-là. C'est un peu ça que le Seigneur nous propose de faire. C'est pas en nous-mêmes, dans notre vieil homme, qu'il faut aller puiser. Il y a une nouvelle installation extraordinaire, parfaite, suffisante, aux normes divines, que Dieu a faite en nous. C'est l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire déjà? Bon, nos pensées s'éclaircissent peut-être, mais bon, mais quand même, il y a la pratique, même en tant que chrétien. Bon, voilà, c'était beau ce qu'on a entendu là. C'est vrai, c'est la Bible. Parfois, il faut, si on a été crucifié à une chose, il faut aussi fuir ces choses-là. Soyons raisonnables. C'est pas la peine d'en rajouter. Il faut les fuir. On est mort, mais cette installation, il faut pas la rebrancher. Il faut le croire. C'est le premier pas. Il faut l'entendre, avant tout. Dieu l'a dit clairement. Les versets sont indiscutables. Il faut le croire. Si on ne le croit pas, c'est comme l'électricité. Il se passe rien. Si on n'appuie pas avec la foi à l'interrupteur, il y a beau avoir une installation idéale, suffisante, avec les ampérages parfaits, il n'y a rien qui marche. Il faut la foi. Il faut le croire. Et il faut s'engager dans ce que Dieu a dit. Pas dans ce que nous pensons, ce que nous avons vécu, pas avec le pli que nous avons pris. Il faut s'engager dans ce que Dieu a dit. Peu importe l'expérience, c'est ce que Dieu a dit. La deuxième chose dont le Seigneur nous a affranchis, c'est la croix, qui nous a délivrés de la loi. Le premier concile de l'histoire de l'Église, l'Épître aux Galates, en partie l'Épître aux Hébreux, en partie l'Épître aux Romains. Des débats. L'apôtre Paul qui parle et qui tranche avec une virulence extraordinaire sur ce sujet-là. Virulent, hein? Autant lui qui dit, bon, marchons de même pas si on est de notre avis sur tel ou tel sujet, mais autant sur ce sujet-là, il est intraitable. Ses paroles sont violentes, même parfois. Et tout ça n'aurait un intérêt qu'historique de se dire, ah oui, au début de l'Église, il y avait les judaïsants. C'était le début de l'Église, et il fallait que pour eux, ils comprennent, parce que c'est eux qui venaient semer le légalisme dans l'Église, la circoncision, revenir à tout ça, au Shabbat, et puis si vous n'avez pas si vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Et alors, tout ça n'est qu'historique. Est-ce qu'il y aurait autant d'épîtres Qui en parlerait aussi clairement si ça n'avait qu'un intérêt historique, à votre avis? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est très important encore aujourd'hui de nous rappeler que nous avons été rachetés, délivrés de la loi. Délivrés de la malédiction de la loi. Ça semble une évidence. Vous connaissez le vengeur de sang? Celui qui avait mal fait, le vengeur de sang le poursuivait et ne le lâcherait pas jusqu'à ce qu'il ait abattu, sauf s'il trouvait refuge dans cette ville et s'il était innocent. Pour ce qui nous concerne, pécheurs, le vengeur de sang doit nous rattraper et nous devons être mis à mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il faut quelqu'un qui meure et qui nous rachète de la malédiction de la loi. Le vengeur de sang était à notre suite. Depuis que nous étions pécheurs, à chaque péché, le vengeur de sang était là, qui pouvait nous rattraper à n'importe quel coin de rue. Et Galates 3,13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Il s'est placé entre le vengeur de sang et nous, et c'est lui qui a pris le coup que nous méritions. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. S'il y avait un contrat qui était signé entre Dieu et nous, qui nous condamnait, ce contrat, Jésus l'a pris, il l'a payé, et maintenant ce contrat-là qui nous condamnait est cloué une fois pour toutes. Il n'y a donc maintenant plus de malédiction sur nous. Mais ensuite, il y a la garde de la loi. Galates 3, afin que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il viendrait à l'idée de personne ici aujourd'hui de retourner à l'école primaire, retrouver son ancienne institutrice, pour lui demander de lui enseigner quelque chose. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce pédagogue a fait son travail. Il nous a condamnés, il nous a montré que nous étions définitivement condamnés, mais il nous a ainsi dirigés à celui qui allait nous sauver. Il a fait son travail. Son travail est terminé pour ce qui nous concerne. Nous ne sommes plus sous la garde de la loi. La loi n'a plus de pouvoir sur nous, la loi n'a plus d'emprise sur nous. Ce n'est pas à elle de commander maintenant notre existence. Et pour être encore plus clair, et c'est ça qui m'a donné l'envie de parler de ça aujourd'hui, c'est ce verset dans Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ce n'est plus maintenant, si tu fais ceci, tu auras cela, et si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. Ça n'est plus ça. Maintenant, c'est oui et amen en Jésus-Christ. Ce n'est plus si tu obéis, tu seras béni, et si tu désobéis, tu seras maudit. Si c'était ça, on serait encore maudit aujourd'hui. Comme vous avez reçu, marchez. Comment avons-nous reçu? Misérables, condamnés. Comment devons-nous marcher, nous savoir toujours misérables, mais en Christ, plus condamnés. Mais toujours condamnables, toujours dignes de condamnation, mais en Christ. On est passé là, je ne sais plus comment ça s'appelle, entre Avignon et en montant, il y a une paroi énorme. Et en haut, il y a une forteresse. J'aurais eu envie de la prendre en photo parce que c'est le genre de photo pour un verset. Mon refuge, ma forteresse. Qui ceux du sud là, qui voit ce que c'est là, on est passé devant. Hein? Une paroi, voilà, des dizaines et des dizaines de mètres. Et en haut, au bord de cette paroi, une magnifique forteresse avec des créneaux. Là, vous dites là-haut, vous craignez rien. Là, l'ennemi peut toujours essayer de grimper. En plus, la paroi, elle est un peu creuse. Vous êtes tranquille. Ben, en Christ, nous sommes ainsi, là-haut, en sécurité. Il est notre rocher, il est notre refuge, et il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors concrètement, comment vivre cette délivrance? Comment vivre? On est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord pour ce qu'on a entendu jusque-là. Et si je demandais à chacun de nous, on pourrait tous témoigner que tout en étant dans un pays de liberté, nous avons des combats, des victoires, des luttes, des chutes, des défaites. Est-ce ça que nous devons vivre? Comment vivre la délivrance de la croix? Mais écoutez, bibliquement parlant, le Seigneur est clair, marchez selon l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Notre forteresse, c'est vrai, c'est Christ, parce que c'est lui qui a pris nos péchés. Mais notre forteresse pratique, c'est une forteresse qui se déplace, qui est vivante, qui parle, qui agit et qui nous demande de trouver notre refuge en elle, en restant, en marchant en elle. Comme un enfant qui verrait son père se déplacer et qui saurait que son seul moyen d'éviter qu'un chien le morde, c'est de rester en marchant à côté de son père ou en lui tenant la main. C'est pas en disant j'ai un papa, je crains rien. Si le papa est parti à 300 mètres et que le chien lui arrive, non, il faut être auprès du papa. Et c'est là où est l'esprit que là est la liberté. Ce n'est pas parce que le Seigneur a tout fait que nous n'avons rien à faire maintenant. Ce qui nous reste à faire, c'est marcher selon l'esprit, Galates 5, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas d'autre refuge, pas d'autre forteresse, pas d'autre protection pratique, quotidienne, que nous de marcher là où l'esprit nous conduit, de lui obéir, de l'écouter, d'être sensible à ce qu'il nous montre. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. 2 Corinthiens 3, 17. Et il y a pourtant une autre loi même que la loi que Dieu nous a donnée, Romains 7, 21. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ah! C'est autre chose, ça. Est-ce que la loi du péché, est-ce qu'il est question de la loi mosaïque? Pas du tout. Là, il est question d'une loi, on pourrait presque dire une autre loi, une loi naturelle. La loi naturelle, c'est que en nous, puisque on l'a dit tout à l'heure, nous sommes d'une nature invétérée pécheresse, bien en nous, il y a encore cette loi du péché. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous subissons une loi naturelle. Là, je parle point de vue physique, c'est l'attraction terrestre. Si là, chacun de nous, si vous pouvez être assis, c'est grâce à l'attraction terrestre. Sinon, vous seriez en train de monter au plafond. C'est une loi avec laquelle vous vivez. Et cette loi, vous pouvez la vaincre de temps en temps. Pas la faire disparaître. Avec une fusée, avec un avion, avec des ailes, avec un je ne sais quoi. Vous ne faites pas disparaître cette loi. Nous ne sommes pas sur la Lune. Nous ne sommes pas dans l'espace. Nous vivons sur Terre. Et sur Terre, cette loi reste là. Il y a la loi du péché. Et cette attraction nous attire toujours vers le bas. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et il termine en disant, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de mort? Et en fait, la suite, c'est, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent, selon la version, selon l'esprit, justement, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Et là, il est question d'une autre loi qui seule a la puissance de non seulement annuler, mais vaincre cette puissance de la loi du péché, la loi de l'esprit de vie. Voilà pourquoi il n'y a que par l'esprit que nous pouvons vivre saintement, que par l'esprit que nous pouvons faire quelque chose. Ici-bas. Il faut se consacrer, ça c'est évident, se consacrer à ce que le Seigneur peut nous montrer. Maintenant, il nous faut livrer nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Il nous faut les livrer. On a vu marcher selon l'esprit et une chose toute simple, la vérité continue à nous affranchir. C'est un peu long, hein? Non, ça va?
Non,
Il y en a un qui a dit non, c'est bien. Mais il reste trois petits points, B, C et D. Dans mon plan, c'est clair. Le grand B, après le grand A, qui était marcher selon l'esprit, le grand B, vous savez quoi? C'est la vérité qui continue à nous affranchir. C'est simple comme vérité. Mais on a besoin de se rappeler d'une vérité aussi simple. Jean 8 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est vrai pour notre conversion, mais c'est vrai aussi pour notre marche chrétienne. C'est la vérité qui nous affranchit. Parfois, on prend des résolutions. Ah, Seigneur, je ne ferai plus ça. Ou Seigneur, je m'arrêterai ça. Ou Seigneur, maintenant, je serai comme ci et comme là. Et puis, le surlendemain, au mieux, pardon Seigneur, j'ai voulu, je n'y arrive pas. Mais quand le Seigneur lui-même nous dit quelque chose, là, lui nous donne le pouvoir. Lui nous libère réellement. Et c'est pour ça que c'est à l'écoute de la voix du berger qu'on marche dans la liberté. Ce n'est pas dans nos pensées, aussi religieuses, aussi saines soient-elles, aussi remplies de bonne volonté et de piété. Non, c'est dans l'obéissance à ce que l'Esprit du Seigneur peut nous montrer. Et ainsi, de la même manière, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole n'est plus maintenant pour nous la loi qui nous condamne, qui nous culpabilise et qui nous abat, l'esprit abattu, mais qui le relèvera? Et parfois le Seigneur est obligé de nous rappeler la loi pour qu'on retrouve un refuge en Jésus-Christ. Mais sinon, la parole est là pour nous instruire, pour nous corriger aussi. Elle nous montre ce qui ne va pas. On a commencé à s'éloigner un peu. Le Seigneur nous dit quelque chose de très clair, que lui seul pouvait nous dire, d'une manière tellement claire. Et là, le Seigneur arrive à nous ramener parce que c'est lui qui nous l'a dit. Et là, comme un bon berger qui nous ramène dans le troupeau, on est gardé. Là, il y a la liberté. Là, il y a l'efficacité. Parce qu'il y a l'obéissance à ce que le Seigneur nous montre. Il nous dit « fais ça », il faut le faire. Il nous dit « arrête ça », on arrête. Ne va plus dans tel endroit, on obéit et on a la puissance et la liberté de le faire. J'ai rencontré récemment un ami africain et j'ai entendu une émission à la radio qui parlait exactement de la même chose. Il m'a dit « oh, lui il est camerounais ». Il m'a dit « oh, il y a des problèmes parfois avec mes frères africains ». Il me dit, ils ont toujours le complexe de l'Africain, c'est-à-dire de l'ancien esclave, à l'égard des Blancs, à l'égard des Occidentaux, et ils ont le complexe de l'ancien colonisé. Cette espèce de rapport d'une certaine crainte quand même, une certaine crainte incompréhensible parce qu'on est frères ou il n'y a pas de raison. Au Timor, il paraît que même s'ils ont leur indépendance, ils ont toujours peur qu'un Français arrive et tape du poing sur la table. Ils ont toujours cette crainte-là. C'est vraiment là encore dans les gènes, cette crainte. Mais c'est une crainte injuste. Pour le Timor, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce complexe de l'ancien esclave. Et on peut avoir la même chose dans notre vie chrétienne. Ce complexe, cette crainte de « ah oui, mais il y a ça, il y avait ça, et j'étais comme ci, et j'étais comme là ». Et on vit dans la crainte. Et on n'arrive pas à marcher comme un chrétien doit marcher, parce qu'on est dans la crainte. Et crainte, et les réflexes qu'il y a aussi en tant qu'esclave, c'est d'essayer de désobéir, et puis la haine. Et puis la haine. Au lieu qu'il y ait de l'amour, il y a de la haine. Et le Seigneur dit qu'il nous faut résister à nos anciens maîtres. On a vu toute la liste de nos anciens maîtres, il faut résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans Galates 2, justement, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Il y en avait qui venaient piller la liberté qu'ils avaient. Eh bien, non, on leur résiste. On a lu tout à l'heure, nous sommes dégagés de la loi. Donc, puisque nous sommes morts à cette loi ne doit pas à nouveau nous asservir. Le dé. Et je termine. Servir sous le régime nouveau de la loi parfaite. Et si on doit résumer, simplifier encore quelque chose, Jacques 1, 25 dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Galates 5, 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour. Par amour. La loi de Christ, la loi de liberté, la loi parfaite, c'est l'amour. Par amour, servir les frères et les sœurs. Pas par crainte que Dieu nous attende au virage. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Par amour. Parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jour du mariage, le maire ne vous fait pas une liste de 50 pages de toutes les obligations que vous aurez besoin d'assumer dans votre couple. Il y en aurait 50 pages si vous faites le détail. Mais il simplifie les choses, et à la limite, le Seigneur nous simplifie encore les choses, qui englobe tout. Il dit, aime ta femme, ou femme, aime ton mari. Et là, on n'a pas besoin de développer, de décomposer tout ça. C'est suffisant. Aimer. Quand on aime, eh bien, on n'a pas envie d'aller voir d'autres femmes ou d'autres hommes. Alors que la loi dit « tu ne convoiteras point », et ayant dit « tu ne convoiteras point ben », les hommes, vous avez beau leur dire ça, les hommes, ils convoitent. J'avais un ami, il avait compris l'évangile, il en avait passé des nuits entières à discuter, il avait tout compris. Et il me disait, en regardant par la fenêtre, il me disait « regarde toutes ces jeunes filles qui passent, je ne peux pas laisser passer ça ». Non mais, confronté à la loi qui dirait « ne convoite pas », ben effectivement, des bouquets de fleurs, c'est beau tout ça. Mais je l'ai rencontré plusieurs années plus tard. En fait, j'ai rencontré une jeune femme en discutant dans la rue de l'Évangile. Et cette jeune femme m'a invité à son mariage. Et moi, j'étais en fiançailles, donc on est venu avec Marie-Hélène. Et cette jeune femme, elle connaissait ce copain-là qui pourtant vivait à Marseille. Et elle l'a invité. Je me suis retrouvé à son mariage avec ce copain-là qui était là. Et là, il était avec une jeune femme. Et je n'étais pas inquiet. Entre guillemets, je savais bien qu'il ne regarderait personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Son cœur était attiré par elle. Et c'est tout. Le problème de toutes ces jeunes filles qui papillonnent partout, ça ne l'intéressait plus. Il aimait quelqu'un. Et nous, c'est la même chose. Et tu ne feras pas ci, tu ne feras pas là. N'ont amené qu'au désespoir. Mais quand on aime, bah oui, toute la loi est accomplie. On aime, on aime les frères et les sœurs, on ne veut pas leur faire du mal, on les sert, on fait ce qu'on peut pour, par la grâce de Dieu, pour leur faire du bien. Oui, toute la loi est accomplie dans l'amour. Voilà, la loi accomplit et obtient, l'amour, pardon, obtient et accomplit infiniment plus que la crainte. Je laisse maintenant soit Olivier, terminé.